Bienvenue pour une nouvelle émission de Conflit. Merci de votre fidélité. Vous êtes chaque semaine de plus en plus nombreux à nous écouter. C'est donc je vous remercie. Vous pouvez retrouver Conflit dans ses podcasts et retrouver également Conflit en kiosque et sur notre site internet revueconflit.com avec un numéro qui est consacré à la mer de Chine et aux rivalités entre la Chine et Taïwan, et puis un hors-série consacré à la guerre, regard sur la guerre, faire la guerre au XXIe siècle, que vous pouvez acquérir sur notre site internet, notre boutique en ligne, où vous pouvez acheter les numéros en format papier et en format numérique, et en format papier, ils vous sont livrés au bout de quelques jours. Et puis Conflit va également lancer d'ici quelques semaines des cours en ligne, des cours de géopolitique avec les auteurs de Conflit. Nous vous donnerons plus de précisions quand la plateforme sera ouverte et accessible, mais vous pourrez retrouver une série de cours sur l'analyse géopolitique, sur la Syrie, sur la Russie, avec les auteurs de Conflit que vous avez l'habitude de retrouver dans nos colonnes, que vous avez l'habitude de lire, des cours en ligne avec des cartes, avec des documents, pour vous donner l'essentiel à comprendre sur la géopolitique. Et cette semaine, nous allons justement aborder un sujet qui est essentiel, qui est un sujet juridique. Nous aimons bien à Conflit traiter de ces sujets juridiques pour montrer justement l'imbrication qu'il y a entre le droit, la justice, la géopolitique et les implications que cela a dans notre vie quotidienne. La question du droit par rapport au terrorisme, la question du droit par rapport au renseignement, par rapport à la manière de lutter contre les différentes attaques, différents attentats que la France connaît depuis maintenant plusieurs décennies. Et pour parler de ces rapports entre droit et terrorisme, je reçois cette semaine Alexis Depro. Bonjour.
Bonjour Jean-Baptiste.
Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de Conflit. Nos auditeurs peuvent vous lire également dans le magazine où vous publiez régulièrement des articles sur ces sujets-là. Vous publiez également dans la revue Sécurité Globale, qui est dirigée notamment par Xavier Hoffer. Et vous êtes docteur en droit de la sécurité et de la défense de l'Université Paris 2 Panthéon-Assas, vous êtes juriste, et vous publiez aux éditions du CERF cet ouvrage « Le droit face à la terreur », dont les références, comme chaque semaine, sont à retrouver sur le site internet de Conflit. « Le droit face à la terreur », vous analysez justement la manière dont le droit est utilisé pour lutter contre le terrorisme, on va y revenir, la question du renseignement aussi, c'est un aspect qui est extrêmement important, et puis l'arsenal législatif qui a été mis en place depuis plusieurs décennies maintenant, au moins depuis les années 1980, pour lutter contre le terrorisme. Première question peut-être pour évoquer la question du renseignement, parce que c'est un sujet important. Conflit d'ailleurs avait consacré un dossier à ce sujet-là en 2019. Comment est-ce que le renseignement est aujourd'hui organisé pour lutter contre le terrorisme ? Parce que vous dites bien dans votre ouvrage que c'est un sujet qui est très important, qui est peut-être même le sujet essentiel dans la lutte contre les terroristes, l'organisation du renseignement, et vous montrez qu'il y a différentes structures qui sont importantes, mais qui sont souvent inconnues du grand public.
Oui, vous avez de nombreuses structures avec des évolutions en fait dans le temps au regard des nécessités qu'il fallait apporter. Donc aujourd'hui, vous avez quand même un pilotage au niveau présidentiel avec le président de la République. Il y a le Conseil national du renseignement et au sein de ce Conseil national du renseignement, vous avez bien sûr le coordonnateur national du renseignement qui est depuis 2017 le coordonnateur national du renseignement et de la lutte contre le terrorisme. C'est ici qu'il y a un pilotage des différents services de renseignement. Vous avez bien sûr la fameuse Direction générale de la sécurité intérieure qui va traiter de tous les phénomènes de terrorisme et de radicalisation sur le territoire national. En cela, elle est aidée au niveau intérieur par les ex-RG, le service central du renseignement territorial. Vous avez aussi, je prie de m'excuser pour tous ces noms, mais la SDAO, la sous-direction et l'anticipation opérationnelle qui appartient à la gendarmerie, qui permet aussi un énorme maillage territorial et de faire remonter l'information. À côté de ces services intérieurs, vous avez le renseignement financier avec TRACFIN, donc qui s'occupe beaucoup du blanchiment, mais elle permet de suivre les flux financiers des organisations ou en tout cas des groupes terroristes. Et vous avez le renseignement militaire avec trois services, dont le plus important et le plus connu, c'est la DGSE, la Direction Générale de la Sécurité Extérieure. Vous avez le renseignement militaire de la DRM, Direction du Renseignement Militaire, qui apporte énormément de renseignements sur les théâtres d'opération, où la France est présente. Et enfin, la direction du renseignement de la sécurité et de la défense, c'est l'enseigne des PSD qu'on appelait les bœufs carottes de l'armée à l'époque, mais qui va aussi traiter de la sécurité de nos installations unitaires et qui va traiter de la radicalisation potentielle de certains de nos militaires. Voilà à peu près les différentes structures de renseignement que nous avons aujourd'hui sur le territoire français et qui sont bien sûr coordonnées. Par exemple, je pense à la DGSI. Aujourd'hui, la DGSI, c'est devenue une superstructure depuis qu'elle a intégré l'UCLAT, l'unité de coordination de la lutte antiterroriste, et l'EMOPT qui a été créée sous François Hollande. Avant, c'était différentes structures qui travaillaient chacune de leur côté. Tout cela a été intégré au sein de la Direction Générale de la Sécurité Intérieure pour avoir un meilleur renforcement, une meilleure coordination. Et bien sûr, j'avais oublié une autre structure de renseignement importante, c'est la DRPP, la Direction du Renseignement de la Préfecture de Police de Paris, qui est essentielle, qui travaille beaucoup avec les établissements pénitentiaires, et notamment encore avec, et après j'en arrête, avec le Service National du Renseignement Pénitentiaire, qui permet un renseignement au sein de nos établissements pénitentiaires, puisqu'on sait très bien que les prisons françaises sont des incubateurs de l'islamisme et que ces individus en fait vont pouvoir communiquer au sein des prisons et parfois créer des copinages au sein de ces établissements durant leur incarcération.
Donc on a des services qui sont rattachés à la police, à la gendarmerie, à l'armée, à la préfecture de Paris. Ça fait pas beaucoup de strates. Est-ce qu'ils arrivent à travailler ensemble ensuite pour mettre en commun des informations et avoir une lutte qui est efficace?
Il peut y avoir des services qui souhaitent garder leur précaré et leurs informations, mais il y a quand même une coordination aujourd'hui, notamment avec le coordonnateur national du renseignement de la lutte contre le terrorisme, qui permet de faire remonter l'information, que les services puissent travailler ensemble et d'éviter en fait les bévues. Malheureusement, c'est à cause des bévues qu'il y a aujourd'hui des améliorations. Mais quand il y avait un terroriste qui était suivi par la préfecture de police, le renseignement de la préfecture de police à Paris, et qu'il a ensuite allé à Reims, c'était là la DGSI traiter le dossier, ça n'a pas été totalement traité, les écoutes téléphoniques ont été arrêtées, et malheureusement, il y a eu des attentats. Voilà.
Alors, le problème du terrorisme, c'est qu'on ne prend conscience de sa réalité que lorsqu'il y a un attentat qui réussit. On ne voit pas tout ce qui a été arrêté, toutes les personnes qui ont été empêchées. Donc, il y a un côté très ingrat dans le renseignement. Finalement, quand ça échoue, quand quelqu'un arrive à passer entre les mailles du filet, on en parle. En revanche, tout ce qui est fait au quotidien et qui réussit, ça ne passe pas dans les médias courants.
Effectivement, en fait, le renseignement, il est par essence secret. Donc, tout ce qui a réussi, on en parlera peu. Alors, aujourd'hui, Gérald Darmanin fait beaucoup de communication sur le nombre de tentatives d'attentats qui ont été déjouées. Mais vous avez entièrement raison. Dès qu'il y a une réussite, on n'en parle pas trop. Et malheureusement, dès qu'il y a un échec, ça fait la une des médias, comme il y a très très longtemps, l'affaire du Rainbow Warrior, où on avait fait exploser un bateau, c'était sur la question des essais nucléaires, donc c'est dans les années 80. Mais c'est pour ça aussi l'idée de cet ouvrage, c'est d'être sans prétention, mais d'être un peu le porte-voix de ces agents de renseignement qui, par définition, ne peuvent pas parler, hormis ceux qui sont à la retraite et qui écrivent des ouvrages, mais de montrer en fait le travail opérationnel qu'ils mènent au quotidien, et de voir en fait, au-delà des scénarios hollywoodiens, du bureau des légendes, comment ça se passe et ce qu'ils font en réalité, et ce qui malheureusement peut échouer quand on perd nos concitoyens militaires des forces spéciales.
Ce qui est intéressant dans votre ouvrage, c'est que vous montrez comment il y a eu une adaptation du droit depuis les années 1980 par rapport au terrorisme. Alors on va y revenir parce que aujourd'hui, quand on parle du terrorisme, on pense essentiellement au terrorisme islamiste, parce que c'est lui qui sature l'information. Or, la France n'a pas connu que ça. Il y a eu le terrorisme d'extrême gauche comme Action Directe ou Fraction Armée Rouge. Il y a eu, à une époque, des Arméniens, des Bretons aussi, qui ont pu faire des attentats. Les Corses également, connexion avec ETA et donc quelques contre-coups de TA basque en France. Il y a un historique important des rapports entre la France et le terrorisme, et donc une manière de faire aussi, ou une réponse qui s'est formée au moins au cours des 50 dernières années.
Oui, en fait, on a un petit peu quand même subi tous ces actes terroristes qui étaient d'abord d'origine internationaliste, effectivement. C'est-à-dire que il y avait le terrorisme indépendantiste, le terrorisme, comme vous le disiez, sur les brigades rouges, internationaliste. D'ailleurs, juste pour dire, le terrorisme, enfin, les attentats menés par les indépendantistes bretons n'ont causé aucun mort. Il y a eu un seul mort, mais c'était, je crois... un échec dans la préparation d'une bombe, mais en tout cas, ça ne visait que des installations et jamais des êtres humains.
Comme les corps, d'ailleurs, très souvent. Souvent, les attentats à corps sont aussi contre des préfectures ou des bâtiments, voilà. Mais exactement. Rarement contre des personnes.
Oui, 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 c'est ça. On est moins sur des personnes visées ou des civils malheureusement touchés, comme l'attentat Hypercor, je crois que c'était Hypercor en Espagne, dans le nord de l'Espagne. On n'est pas sur cette définition-là. Aujourd'hui, on a évolué pour vraiment terroriser la population avec des attentats qui sont horribles. Hein. Je veux pas aller dans le morbide, mais tout le monde est au courant de ce qui s'est passé à l'encontre du professeur Paty à Nice, et même, bien sûr, tous nos concitoyens abattus de sang-froid, puisqu'on est en plein dans le procès du Bataclan. On est vraiment ici sur une logique de terreur et de tuerie, de volonté de tuer sous un prétexte que eux considèrent comme légitime, mais que l'État doit absolument combattre pour éviter justement d'autres scènes horribles. Je pense encore à l'église du Rouvray où le père Hamel a été tué.
Est-ce que le droit, est-ce qu'il fallait absolument changer le droit ou modifier le droit, faire évoluer la législation pour répondre à ces besoins, ou est-ce que c'était une nécessité politique, c'est-à-dire que face à un événement dramatique, il faut aussi montrer qu'on agit, et qu'une manière d'agir, c'est de modifier la loi, mais est-ce que c'était vraiment utile ?
Alors, il y a des dispositions qui sont nécessaires, ça c'est sûr et certain, parce qu'il fallait donner un cadre juridique au service de renseignement. La loi renseignement a permis à nos agences de pouvoir travailler sereinement. Par exemple, la filature d'Abaoud par les services de renseignement, où la fameuse pose de micro et de caméra a été encadrée juridiquement. Mais il est vrai qu'on est aujourd'hui sur de l'émotion. De l'émotion, c'est-à-dire que dès qu'il y a un attentat, on propose d'aller dans la surenchère législative. Et si vous me permettez une citation d'un grand juriste, le professeur Chandbou, il écrivait déjà il y a quelques années « L'époque actuelle se caractérise par une multiplication sans précédent des normes juridiques. Cette multiplication est unanimement dénoncée comme une source de complication de la vie courante. » On est vraiment sur cette idée-là, 35 ans de législation antiterroriste, avec des mesures bien sûr nécessaires. Je ne veux pas aller dans la critique stérile. On avait besoin de ces mesures. Parfois, il aurait été peut-être nécessaire qu'elles soient promulguées, ces lois, avant qu'il y ait des actes funestes. Après, là, je prends pas un parti électoraliste, donc je veux pas aller dans la surenchère. Chacun y voit de sa propre opinion et sa propre chapelle. Mais c'est vrai que dès qu'il y a un attentat, d'aucuns va vouloir ceci, l'autre va vouloir cela, jusqu'à proposer pour certains des centres de rétention administrative. Je ne crois pas que ça soit la bonne solution, mais la loi renseignement, dans tous les cas, était vraiment importante.
Donc cette loi, en quoi elle consiste ? C'est de la filature, c'est poser des écoutes téléphoniques ?
Oui.
Pouvoir également fouiller des documents, des ordinateurs, des réseaux sociaux ?
Alors, la loi renseignement, déjà, elle a rajouté une phrase sibylline, mais très importante, c'est que... ça concourt, le renseignement est une politique publique. Là, à partir de là, l'idée même du fait que le renseignement soit une politique publique est de mettre en avant l'importance de cette thématique. Elle permet effectivement à la communauté du renseignement, donc les services principaux dont je vous ai précédemment cité, d'agir, de procéder à des écoutes téléphoniques, de capter les données de connexion. Alors, on peut prendre simplement l'adresse IP pour retracer à peu près l'ordinateur, mais aussi, dans une autre disposition, prendre les éléments à l'intérieur d'un ordinateur ou issus d'une conversation. On peut aussi poser des vidéos ou écouter. Donc là, en fait, ça demande une procédure particulière, puisque il y a une procédure d'atteinte à la vie privée, où on va, par exemple, poser un micro dans un fauteuil de voiture. Et il y a aussi la procédure de l'IMSI catcher, c'est-à-dire qu'on va voler les données et les écoutes avec un appareil qui va écouter absolument tous les téléphones aux alentours de la zone pour prendre ce que l'on souhaite sur un téléphone portable. Donc là, effectivement, c'est assez intrusif. Et vous avez aussi la fameuse question des algorithmes, mais qui ouvre vraiment, là encore, à autre chose, à un débat sur la pêche massive des données, puisque c'est vraiment des données indifférenciées et qui ne s'appliquent pas forcément à une seule personne.
Et donc, ce que ça pose aussi, c'est la question des personnes innocentes, si je puis dire. C'est-à-dire qu'on peut comprendre qu'on mette en place des mesures pour les terroristes ou les personnes qu'on soupçonne de terrorisme, mais on voit bien qu'on est en train de modifier aussi la société où des personnes qui n'ont rien à voir avec ça pourront éventuellement être écoutées. Et donc, on est en train de faire aussi quelque chose qui peut être un peu dangereux, de suppression de la vie privée, d'écoute et de mesures d'exception qui finissent par devenir la norme.
Oui. C'est exactement en fait la peur. Déjà, à l'époque, Edward Snowden avait expliqué que sur toutes les données récoltées par la NSA, 80% n'étaient pas antiterroristes. Donc vous voyez, on était réduit déjà à seulement 20%, le reste. Mais si on se met dans une logique de guerre économique, on peut comprendre qu'en fait les 80% étaient de l'espionnage économique. Mais là aussi, on peut se poser des questions quant à l'atteinte à notre vie privée, à nos données personnelles et à cette évolution de la législation en cette faveur, puisque la loi du 31 octobre 2017 a inscrit dans le droit commun, en fait, toutes les mesures qu'il y avait dans l'état d'urgence. Et en fait, à l'origine, il fallait promulguer l'état d'urgence, la prolonger, ce qui a été le cas pendant 2 ans, et ensuite attendre à chaque fois une prolongation. Aujourd'hui, tout est inscrit dans notre droit commun.
Oui, et on voit bien comment cet état d'urgence, il n'est plus vraiment urgent, enfin, en quelque sens où il est devenu une sorte de norme quotidienne.
Oui, Manuel Valls disait on arrêtera l'état d'urgence dès que on aura combattu Daesh. Je pense que ça peut durer des années parce qu'on sait très bien que Daesh est une structure mercenaire, hein, c'est pas une organisation terroriste comme on a pu le voir avec le terrorisme internationaliste. Et donc du coup, on va s'inscrire malheureusement dans une durée qui peut être préjudiciable à l'égard de nos concitoyens, même si encore une fois je tiens à le dire, le risque zéro n'existe pas et c'est triste. Mais on est aujourd'hui dans une société fracturée où la radicalisation est de plus en plus présente. On a vu les derniers sondages où une partie de la jeunesse approuvait en fait le geste du terroriste à l'encontre du professeur Paty. Donc ce qui est quand même incroyable. Voilà.
Quels sont ensuite les liens entre renseignement, police et justice ? Parce que c'est une chose de capter de l'information. Ensuite, il faut la traiter, il faut aussi éventuellement agir. Donc, c'est le rôle, enfin, vous l'avez dit en début d'émission, de l'ensemble de ces services, la justice, la gendarmerie, éventuellement d'intervenir. Pardon, la police et la gendarmerie, éventuellement d'intervenir, et puis de la justice, de sanctionner le cas échéant. Et donc, plus on met d'acteurs, plus la décision va être coupée, et éventuellement, plus il y aurait de la déperdition aussi entre l'un et l'autre des acteurs possibles.
Alors, en fait, aujourd'hui, ça existait déjà auparavant, mais il y a ce qu'on appelle des notes blanches. Les notes blanches, c'est des documents qui sont ni signés, ni datés, et qui apportent des éléments d'information apportés par nos agents du renseignement sur tel ou tel individu, sur les activités de cet individu. Et ces notes blanches, elles vont être apportées dans le cadre d'un procès. Un procès administratif, un procès judiciaire, pour dire, voilà, cet individu, il a participé à telle réunion, il était en rendez-vous avec X, Y et Z qui sont très connus pour des faits de radicalisation. Et donc là, on va procéder à la judiciarisation du dossier. Dès qu'on les arrête, les notes blanches vont, s'il n'y a pas eu d'acte terroriste, ces notes blanches vont aussi, dans tous les cas, aider à formaliser la procédure pour aider à l'enquête et aider à un jugement. Voilà l'idée générale. Donc il y a un travail aujourd'hui entre les services de police et les services judiciaires. Et on est quand même dans un débat contradictoire, hein, donc on peut contester, mais c'est aujourd'hui très rare que ces notes blanches soient contestées dans leur véracité. À l'époque, il y avait moins de cadres juridiques, donc il y a 50-60 ans, on était sur des notes blanches qui étaient plus, si vous me permettez, sur la police de la braguette des hommes politiques. Là, nos services de renseignement ne font plus ça. Ils s'attellent vraiment à des renseignements précis sur les activités présumées de la personne qui est surveillée.
Si on regarde ce qui se fait à l'étranger, en Europe, est-ce que il y a des philosophies différentes dans la manière d'établir du droit contre le terrorisme? L'Espagne, par exemple, qui a une longue expérience, notamment avec ETA, l'Italie aussi, longue expérience dans la lutte contre le terrorisme politique. Est-ce qu'il y a des différences d'approche ou est-ce que la philosophie, la manière de faire est plus ou moins la même?
Il y a quand même, avec les anglo-saxons, il y a quand même des similitudes. Mais c'est vrai qu'en Italie, par exemple, sur les personnes radicalisées non italiennes, elles sont directement expulsées. Donc là, il y a une approche qui ferait l'objet de débats en France. Mais après, nous sommes vraiment sur des philosophies assez similaires. L'idée étant qu'il y a quand même beaucoup de partenariats et d'échanges d'informations entre les services français et les services étrangers. Donc là, j'inclus même les services du nord de l'Afrique, hein, parce que les services marocains, algériens aussi sont des services qui font un excellent travail. Et donc, il y a un partage de l'information. Et donc, tout ça aide à fructifier, si vous voulez, les données pour tel ou tel individu qui serait susceptible de commettre un attentat.
Alors, ça, vous répondez à la question que j'allais vous poser justement sur la notion de frontière, puisque le terroriste n'a pas de frontière et donc peut passer facilement d'un pays à l'autre. Et c'est important, là, effectivement, d'avoir des coopérations. Et vous l'avez souligné avec le Maroc notamment, parce que c'est un pays par lequel transitent un certain nombre de personnes qui peuvent ensuite venir en Europe pour commettre des actions terroristes.
Oui, il y a quand même un grand partenariat, quand bien même il y a une perméabilité des frontières. C'est vrai qu'il y avait un terroriste qui était allemand, un acte terroriste en Allemagne qui a pris le train, qui a traversé la France, qui a été arrêté à Milan. Les terroristes de Barcelone qui sont passés mystérieusement en France. Vous voyez, ou même les attentats de Paris, où les acteurs de ces attentats sont allés en Belgique. Il y a comme une perméabilité, il y a un danger. Alors, je comprends la difficulté de surveiller toutes les frontières, puisqu'il faudrait mettre des gardes-frontières à tous les postes et procéder à des contrôles très verrouillés. Mais il y a comme une perméabilité qui a déjà été observée avec la criminalité organisée, où il y a une perméabilité dans les frontières, où les vols qui peuvent être commis en France, les objets volés se retrouvent dans les pays de l'Est 2 ou 3 jours juste après.
Vous soulignez au début de l'émission la question des prisons, parce que là c'est un problème sécuritaire, un problème aussi social. On met des gens en prison souvent pour éviter qu'ils ne commettent des méfaits, et on sait bien que c'est un lieu où ça prend le crime, où se créent des réseaux, et donc l'effet recherché peut être à l'inverse. Pardon, l'effet obtenu peut être à l'inverse de l'effet recherché.
Oui, en fait, c'est toute la difficulté des directeurs d'établissements pénitentiaires, c'est d'éviter en fait des émeutes, puisqu'il pourrait y en avoir, et donc on laisse un petit peu faire pour garantir la paix sociale, et même si maintenant il y a des unités spécialisées pour les terroristes, bien sûr, hein, pour éviter qu'ils ne puissent communiquer, mais on sait très bien que il y a une équation en fait entre criminalité organisée et crimes de droit commun, les délits de droit commun. Et puis ensuite, la radicalisation au sein des prisons ou même dans certains établissements pénitentiaires, on ne peut pas prendre sa douche si on n'est pas habillé, on doit respecter beaucoup de règles avec un prosélytisme très fort. Et donc du coup, c'est la raison pour laquelle en fait il y a eu une montée en gamme, une montée en puissance du renseignement pénitentiaire. Pour procéder aujourd'hui à des écoutes, parce qu'on sait très bien que les téléphones sont en prison. Je sais plus sur quelle année, mais il y a eu 40 000 en une année qu'ont été récupérés. Donc à partir de là, il y a un travail de surveillance, d'écoute, et on sait que les individus radicalisés peuvent ensuite se retrouver à l'extérieur pour fomenter des actes terroristes.
Est-ce qu'on a aussi une répartition territoriale? On voit dans les actes d'attentat, il y a quand même des régions qui sont plus marquées que d'autres. Alors la Côte d'Azur, notamment la ville de Nice, a eu quand même deux gros attentats, dont celui sur la promenade des Anglais avec le camion. Évidemment, la région parisienne. Est-ce que par rapport à la question du renseignement, il y a cette prise en compte du territoire et donc une une modulation ou peut-être des forces plus importantes positionnées là où il y a potentiellement des dangers plus grands.
Alors, on a une idée globale du nombre d'effectifs, mais on ne sait pas combien d'agents de renseignement sont affectés à telle ou telle zone. Ce que je peux vous dire, c'est que il y a encore peu, on était à entre 700 et 800 agents de renseignement dédiés à la lutte contre le terrorisme à la préfecture de police de Paris. Donc ce qui veut dire Paris et la petite couronne, bien sûr, c'est la zone de compétence. Et ensuite, vous avez une montée encore une fois en gamme du nombre de recrutement un peu partout en France de la part de la DGSI et des autres services de renseignement. Il y a après le maillage territorial aussi de la gendarmerie qui aide, c'est-à-dire qu'ils sont pas forcément agents du renseignement, mais ça va faire remonter auprès de la SDAO. Et donc il y a quand même tout un travail. J'ai malheureusement pas les chiffres et peut-être que c'est mieux comme ça d'ailleurs. Je crois qu'il vaut mieux que ça reste ainsi. Mais oui, les zones à métropole sont plus à risque forcément que, si vous me permettez, dans le Larzac ou dans les Côtes d'Armor.
Quel est le lien entre criminalité ordinaire et terrorisme? Est-ce que le terroriste est quelqu'un qui est issu de cette criminalité ordinaire ou est-ce qu'il a un profil particulier que l'on peut définir et donc qui permettrait éventuellement d'agir avant le passage à l'acte?
Alors en fait, là je vais reprendre les propos du commissaire Jean-François Guéraud, qui est au Conseil national du renseignement. Aujourd'hui, il y a une forme de compagnonnage entre cette criminalité de droit commun et le terrorisme, mais tout cela se fait dans l'adéquation entre le détenu de droit commun qui bien sûr soit a été converti, soit s'est radicalisé au sein des prisons. Voilà l'idée générale. Après, le délinquant de droit commun, sur le principe, n'est pas automatiquement un radicalisé. S'il est arrêté pour trafic de stupes, je pense qu'il est dans une veine d'enrichissement matériel, mais la prison va l'aider à trouver une voie religieuse qui lui permet d'évoluer vers des actes plus dangereux.
Vous citez Jean-François Guéraud, il parle d'hybridation, c'est le concept qu'il a un peu popularisé, justement cette hybridation entre crime de droit commun et crime politique.
Oui, absolument. Donc Jean-François Guéraud, il y a le commissaire aussi Julien Dufour. Enfin, ils sont vraiment partis avec l'expérience de terrain de cette analyse que, enfin, de toute façon, les chiffres que j'ai apportés dans l'ouvrage sont ceux de Julien Dufour, Jean-François Guéraud, Xavier Hofer. On est sur une équation très extrêmement forte entre criminalité organisée et radicalisation et actes terroristes. En tout cas, pour toutes les personnes qui sont nées en France et qui ensuite ont dérivé de la criminalité de droit commun vers le terrorisme. Je pense notamment à Chérif Chekat qui a été arrêté une soixantaine de fois, qui a été condamné plus d'une vingtaine de fois et qui ensuite a basculé vers le terrorisme.
Alors, Conflit d'ailleurs avait consacré un dossier sur ces questions-là, c'était en 2019 sur les djihadisme, mafia et terrorisme où il y avait plusieurs articles justement de Jean-François Guéraud et de Julien Dufour. Vous pouvez retrouver ça sur notre boutique en ligne. Sur la question également du renseignement, il y a le sujet de l'évolution technologique. On ne fait pas du renseignement d'un point de vue technique aujourd'hui de la même manière qu'on le faisait il y a 10 ou 15 ans. Il y a des outils nouveaux qui sont apparus, notamment la question des réseaux sociaux par exemple. Alors c'est à la fois plus facile parce que beaucoup de choses sont publiques, donc on peut plus facilement suivre certains comptes. Et puis face à la masse d'informations, le risque est d'être noyé et donc de ne plus pouvoir capter la bonne information. Comment est-ce que s'organise justement le renseignement par rapport à ça et je ne sais pas si on peut parler d'espionnage, en tout cas le fait de suivre des réseaux sociaux, de suivre des comptes, de voir compte Twitter ou autre, de voir comment les gens réagissent. On l'a vu lorsqu'il y a eu l'assassinat de Samuel Paty, des comptes Twitter qui se sont réjouis de cette attaque, des photos qui ont circulé. Donc là, il y a beaucoup de sources ouvertes. Enfin, c'est ce qu'on dit en intelligence économique, on parle de sources ouvertes. C'est pas la peine d'aller chercher extrêmement loin ou de mettre les gens sur écoute. Il y a beaucoup d'informations qui sont déjà à la libre disposition de celui qui suit ces personnes.
Alors après, toute la difficulté, c'est de savoir si la personne qui va procéder à ces différentes menaces va réellement aller jusqu'au bout. je pense que c'est compliqué puisque aujourd'hui sur les réseaux sociaux on peut s'épancher plus facilement que dans la réalité. Je crois pas que les personnes qui proféraient des menaces derrière l'ordinateur le feraient en vrai. Donc là, c'est tout un travail de détection précoce de la part des services de renseignement pour savoir si la personne est isolée ou donc c'est de simples menaces, ou alors elle est plus liée à d'autres, comme on a pu le voir au fil des enquêtes après l'attentat contre le professeur Paty. Là, c'est assez compliqué à voir. Il est vrai que le renseignement technique peut apporter quand même des éléments forts, des informations pertinentes, même si le renseignement humain est plus que nécessaire. Après, aujourd'hui, c'est grâce au renseignement technique, au-delà des réseaux sociaux, qu'on peut avoir des informations sûres quand on parle des théâtres d'opérations extérieurs, où là, la DRM effectue un travail extrêmement pertinent. La DGSE aussi, sur la procédure de la surveillance des écoutes internationales, elle peut avoir quand même des points forts. Mais je pense qu'il faut les deux. Et en gros, ce que je veux dire par là, c'est qu'il ne faut pas miser sur le renseignement technique à la place du renseignement humain. Les deux sont complémentaires, mais il ne faut surtout pas oublier le renseignement humain.
Alors c'est important que dans cette notion de renseignement humain, ça veut dire des indicateurs qui sont dans telle ou telle zone urbaine pour avoir des informations. Ça veut dire des gens qui infiltrent aussi, peut-être des policiers qui infiltrent certains lieux, certaines structures, certaines associations.
Bien sûr, c'est tous ces éléments-là. Après, il faut bien se rendre compte que aujourd'hui, et c'est une chance, nous ne sommes pas dans la délation, mais ce sont surtout des signaux qui remontent de la part des familles, des individus qui souhaitent commettre des attentats. Donc, il y a eu des actes déjoués parce que les parents se sont rendus compte en fait que leur enfant allait commettre un acte horrible. Et puis, oui, il y a les informateurs qui sont nécessaires, que les RG vont utiliser pour remonter jusqu'au bout, ce qui est déjà le cas dans d'autres domaines, mais sur les violences politiques, on sait qu'il y a beaucoup d'informateurs. Et c'est comme ça que ça fonctionne, et il y a, oui, de l'infiltration, bien sûr.
Quand on aborde le sujet du terrorisme, on est dans un état d'exception, avec des lois alors qui étaient faites mais provisoires et puis qui durent. Mais comment peuvent-elles ou comment sont-elles aujourd'hui utilisées dans la question de la police courante, puisqu'on a parlé d'hybridation. Donc on ne peut pas faire une séparation nette entre ce qui relève du terrorisme et ce qui relève de la police et du droit commun, si je puis dire, c'est-à-dire du droit ordinaire. Est-ce que la loi renseignement, par exemple, ou d'autres types de lois qui ont été créées pour lutter contre le terrorisme, est-ce qu'ensuite ça va être utilisé pour des affaires de police classiques, retrouver un meurtrier, quelqu'un qui a commis une infraction grave, code de la route, etc.
Non. La loi renseignement, elle est claire. Elle a défini une thématique, une liste thématique très claire et précise. C'est-à-dire que en gros, il n'y a pas que le terrorisme qui est visé dans le renseignement, hein. C'est vraiment l'idée de sécurité nationale qui rentre en compte. Et ça peut être la question de l'espionnage économique, ça peut être la question de la prolifération des armes de destruction massive, ça peut être la question de ce qu'on appelle les violences dites politiques. Vous voyez, c'est tous ces éléments-là, et puis de l'espionnage classique d'ailleurs, hein, pas qu'économique, c'est tous ces points-là qui sont justifiés pour utiliser ce qu'on appelle des techniques de renseignement pour procéder à des écoutes, des recueils de données de connexion. Pour ce que vous me dites, là, on va rester sur une procédure pénale classique. Donc là, il n'y a pas d'inquiétude à avoir, d'autant plus avec le code de la route, ça ne rentre absolument pas en ligne de compte.
Alors pour nos éditeurs qui voudraient travailler dans ces services de renseignement, parce qu'on a beaucoup de professeurs qui nous écoutent ou beaucoup de lycéens ou d'étudiants, ceux qui seraient intéressés, les services recrutent beaucoup depuis quelques années. C'est quel type de profil des juristes, des hackers, enfin des gens qui maîtrisent bien l'informatique? On y rentre par concours, par recrutement? Il y a également différents profils, il y a des militaires, il y a des civils, il y a des policiers. Comment un étudiant qui serait intéressé, quel chemin doit-il suivre ou à quelle porte doit-il aller toquer pour aller travailler dans ces services-là?
Alors, il y a plusieurs voies en fonction des corps. C'est-à-dire que, par exemple, prenons l'exemple de la DGSE. Si l'individu, la personne souhaite être un agent opérationnel sur le terrain, j'aime à penser que c'est quasiment tout le temps un militaire. Un militaire qui a été recruté déjà au sein d'une caserne, au sein d'une brigade, qui a pu être dans les forces spéciales aussi juste auparavant. Et après, il y a aussi le concours. Alors là, c'est un concours plus pour les juristes, enfin plus administratif, c'est attaché d'administration à la DGSE. Donc là, vous n'allez pas être sur le terrain, vous allez avoir une partie du dossier, c'est-à-dire ce qui vous concerne, ce qu'on appelle le BEC, le besoin d'en connaître, mais vous aurez pas, vous travaillerez au sein de la DGSE sur les éléments et, ou même sur des aspects purement RH. Enfin voilà. Et puis, il y a les contractuels. Là, les contractuels, ils sont recrutés parce qu'ils sont linguistes, notamment sur des langues rares, ou parce que ce sont des mathématiciens, des informaticiens qui sont très forts. Pour la DGSI, on est sur un profil policier. Il faut avoir passé le concours de la police pour espérer ensuite pouvoir intégrer la DGSI. Donc on est vraiment sur des demandes de recrutement assez spécifiques, en contractuel sur des domaines particuliers, et puis ensuite, sinon, il faut avoir fait les concours de la fonction publique dans l'administration en question pour ensuite évoluer. Parce que, en plus, je vous prie de m'excuser pour les auditeurs si j'ai oublié, il y a un autre service économique qui est la très puissante Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières, qui a accès à beaucoup de fichiers, mais des fichiers non pas d'individus lambda, hein, qui permet vraiment de retracer beaucoup d'éléments. Donc c'est avec la DNRED aussi qu'on peut avoir des éléments fiables. Et donc là, il faut avoir passé le concours des douanes pour ensuite espérer intégrer la fameuse division du renseignement des enquêtes douanières.
Donc des profils qui sont très, très variés. Oui. Il y en a un peu pour tous les goûts et pour toutes les études ou toutes les filières.
Oui, absolument. C'est les services de renseignement sont très demandeurs. Alors aujourd'hui, avec l'évolution de la technologie, ils sont quand même demandeurs d'informaticiens. Mais tous les profils sont ouverts à partir du moment où vous respectez le cadre de l'habilitation secret défense auquel vous serez toutes et tous soumis. Ça ne pose pas de problème particulier.
Dernière question, Alexis Depro, nous arrivons au terme de notre émission sur ce mouvement juridique qui est mis en place. Vous dites dans votre livre que lorsque la loi a été votée, il y avait peu de députés dans l'Assemblée, ce qui pose aussi la question de la compréhension des choses, c'est-à-dire que on est sur des sujets qui sont extrêmement spécifiques, avec des textes de loi très précis, ce qui se comprend, ce qui est normal, et donc il y a peut-être une difficulté pour le grand public et parfois même pour ceux qui sont chargés de voter la loi comme les députés, qui n'ont pas forcément un cursus de droit, qui connaissent pas, sont pas forcément très au fait des questions juridiques, mais donc à pouvoir prendre position ou à pouvoir intervenir sur un sujet qui devient de plus en plus technique et pointu.
Tout à fait. Et la grande difficulté est là où je suis la position des députés de l'opposition à l'époque des prolongations, des lois de prolongation de l'état d'urgence sanitaire, c'est que tout s'est fait en procédure accélérée. C'est-à-dire que le rythme des débats en séance a été extrêmement court. Ce qui n'a pas permis de mettre en avant le bilan coût-avantage, en fait, de ces lois. L'idée ici, c'est de faire en sorte qu'il y ait une promotion de tous les textes qui vont être votés, enfin une mise en avant, afin que ces textes soient discutés. Ce qui n'a pas été le cas malheureusement. Il n'y a eu qu'un seul rapport sur le suivi de l'état d'urgence, alors qu'il aurait dû y en avoir plus, mais malheureusement le calendrier électoral en a décidé autrement. Et en fait, je pense que l'idée générale est d'avoir un débat. Là, je tiens quand même à saluer le travail qui a été fait depuis 2014 par les parlementaires, parce qu'il y a une structure spéciale qui s'appelle la délégation parlementaire au renseignement, qui va contrôler l'activité des services de renseignement. Et cette délégation, elle rend chaque année, elle l'a rendue il y a un mois, son dernier rapport sur l'activité des services de renseignement. Alors, bien sûr, tout ce qui doit être... Ces parlementaires sont habilités secret défense, mais tous les éléments secrets vont être supprimés. Pour autant, on est sur des rapports très fournis, très bien établis, qui nous permettent maintenant d'avoir une prise en compte de la politique publique du renseignement et qui peut être mise au goût du jour et qui est bien expliquée. Je pense à votre confrère Jean Guinel au point qui, lui, est un spécialiste des questions d'enseignement et qui peut aussi décortiquer tous ces éléments-là et les mettre au grand jour.
Merci beaucoup, Naxis de Pro, d'avoir évoqué cette question du terrorisme face à la loi.
Merci.
Je rappelle le titre de votre ouvrage, Le droit face à la terreur, qui est paru aux éditions du CERF. Toutes les références sont à retrouver sur le site de Conflit, revueconflit.com, site internet sur lequel vous pouvez également retrouver nos anciens numéros, un numéro qui avait été consacré à la question de la criminalité et un autre à la question du renseignement, avec notamment un entretien du général Éric Buquet qui dirige la DRSD, et puis actuellement en kiosque, notre dossier consacré à la mer de Chine et aux tensions entre Pékin et Taïwan, et notre hors-série consacré à la guerre, regard sur la guerre. Merci beaucoup pour votre fidélité, je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission.